Salut Luc.
Allô.
OK, je regarde le chef de l'État brésilien, le Bolsonaro. Je regarde son attitude face à la COVID, face à la nécessité de confinement. Je regarde le président des États-Unis qui a pris ça beaucoup un peu à la légère. Les dirigeants de certains États américains, très, très souvent républicains. Donc, je regarde les différents leaders de droite. C'est comme s'ils trouvaient que c'était pas si important que ça de se protéger du coronavirus. Est-ce que je suis dans le champ?
Non, pas du tout. T'as raison. Les trois pays au sommet de la pyramide coronavirus, États-Unis, Russie, Brésil, les trois des leaders de droite populistes qui sont au sommet. Puis en plus, quand tu regardes dans le détail, là, quand tu regardes dans les États, ben il y avait les photos de Osage Beach dans le Missouri qui ont fait le tour du monde ce matin. Là encore, c'est des États qui refusent beaucoup. Il y a des gens qui se sont exprimés en agressant littéralement ceux qui portaient le masque dans leur pays, dans certaines villes. Take them off. Ils suivaient les gens qui prenaient ils suivaient les gens qui portaient le masque et leur disaient de l'enlever. Et puis il y a des déclarations incendiaires, là. Par exemple, un gouverneur qui dit j'imagine que ça doit être les démocrates, ça. Ils s'attendent à ce qu'on mette notre futur qu'on mette le feu à notre futur pour qu'ils puissent garder leur petite peur au chaud. Tu vois qu'il n'y a pas une réaction très, très, réceptive à la santé publique dans plusieurs de ces États.
Mais qu'est-ce que...
Ben voilà, c'est ça. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a une analyse du New York Times qui est sortie ce matin qui donne des bons chiffres. D'abord, les comtés qui ont voté pour le président Trump ont juste 27% des cas de coronavirus par rapport dans l'ensemble, alors qu'ils représentent 45% de la population. Donc, les États qui ont le coronavirus sont les États démocrates, les comtés démocrates. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui se diffuse beaucoup plus dans les États, dans les villes,
dans les grandes villes,
grandes agglomérations, et qui se diffuse aussi beaucoup auprès des populations pauvres qui sont obligées de continuer à travailler pendant la crise. On parle des Latino-Américains et des Noirs notamment. Puis dans les domaines, il s'agit bien sûr des maisons de retraite, des prisons et des entreprises de traitement de la viande. Et là-dedans, t'as qui? Ben, t'as des Latino-Américains puis t'as des Noirs. C'est 5 fois plus le poids des Latino-Américains, 5 fois plus de personnes qui sont touchées par rapport à leur poids dans la population. Chez les Noirs, c'est 3 fois plus de personnes qui sont touchées par rapport à leur poids dans la population. Alors, mets-toi à la place des Républicains. Il y a d'abord un premier clivage. Les États démocrates l'attrapent beaucoup plus. Parce que eux, il y a moins de densité. T'es dans l'Alabama, ou l'Arkansas. Il y a pas beaucoup de rassemblements. Non seulement il n'y a pas de densité, mais les populations ne se croisent pas. Et à cause de la ségrégation raciale, puis de la ségrégation sociale et de la ségrégation économique, même si c'est dans leur état, c'est pas eux qui le pognent, c'est des gens qui voient peut-être passer sur la route, puis c'est tout, là. Alors, eux, ils se disent, il n'y a pas de raison de faire une panique comme ça, puis de mettre fin à l'économie, et ils en ont la preuve visuelle devant leurs yeux, puis statistique, même quand on regarde. Et il y a une étude supplémentaire qui a été faite par un gars qui s'appelle Harley Archchild de l'Université de la Californie, et lui, il s'est rendu compte que la méfiance envers l'État fait que tu te fies plus à ce que tu vois que ce que tes proches écrivent sur Facebook que ce que tu lis. Tu lis pas, en fait, ce que l'État publie. Donc, tu regardes autour de toi, il se passe rien, il n'y a pas de mort. Tu lis autour de toi, les gens, ils l'ont pas attrapé. Ce sont généralement des gens, jeune génération, blancs, dans des banlieues blanches. Ils se disent, c'est un scandale, cette affaire-là. Et donc, leur colère très, très forte pour dénoncer cette espèce de complot de gauche qu'est le coronavirus à leurs yeux.
OK, mais comment t'expliques le Brésil, d'abord?
Ouais, le Brésil, c'est comme si c'était New York à grandeur, tu sais. San Diego, Sao Paulo, entre autres, c'est des villes où les gens sont très, 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 très serrés les uns sur les autres. C'est eux qui l'attrapent, là. C'est les populations pauvres qui l'attrapent. Les populations riches du Brésil, protégées par des gardes armés, par ailleurs, là, dans des quartiers qui sont protégés par des gardes, puis sur les sommets des montagnes, il doit y avoir des statistiques qui correspondent à peu près à ce qui se fait de mieux dans le monde, là. Donc, on n'a pas cette statistique-là, on n'a pas la différence, mais on peut faire cette hypothèse-là. Bon, maintenant, il y a une autre couche de complexité à rajouter. C'est que, en fait, tu pourrais dire, bon, mais finalement, la droite sort gagnante de cette affaire-là parce que, comme on l'a vu avec l'analyse américaine, pas du tout. À travers le monde, la droite s'effondre. tous les gouvernements, toutes les oppositions de droite, d'extrême droite ou d'extrême droite qui étaient en train de challenger le pouvoir, qui étaient proches de prendre le pouvoir, Autriche, Suède, Allemagne, Italie, Espagne, sont toutes avec 10% 20% moins de votes qu'ils avaient au début de la crise, ainsi que les conservateurs au Canada, jusqu'à 20 points d'écart, parce que en ce moment, les libéraux seraient à 44%, eux seraient à 25%, alors qu'ils étaient au coude à coude lors de l'élection. Alors, comment ça se fait que la droite s'effondre malgré tout? Et là, c'est une autre...
Mais Luc, je m'excuse de t'interrompre, il faut dire une chose. Ici, au Canada, la droite n'a pas été dans l'insouciance. Le Parti conservateur n'a pas exactement appelé, disons, à pas respecter les règles de la santé publique, comme on a vu certains États républicains
le faire. Oui, t'as raison. Et c'est arrivé aussi dans plein de pays, comme par exemple Boris Johnson en Angleterre, qui a finalement appelé tout le monde à respecter le confinement, puis qui a fait un confinement extrêmement sévère.
Puis qui a été malade.
Doug Ford en Ontario, Marine Le Pen en France. Donc, c'est pas toute la droite dans tous les pays qui a appelé à challenger les orientations. Mais là où c'est le cas, ils se sont effondrés un peu partout parce que la droite, la base de la solution de la droite, c'est le retrait de l'État. Puis dans le côté le plus sombre, c'est tant pis pour les faibles et les pauvres, mais l'État n'a pas à s'en mêler. Puis c'est la capacité individuelle, la prise en charge individuelle qui fait qu'on va s'en sortir ou pas. Et là, la maladie vient dire exactement le contraire. Non, c'est pas la prise en charge individuelle. C'est collectif, parce que si ton voisin l'attrape, c'est pas juste son problème, ça devient ton problème. Si il est dans le même métro que toi.
Ben oui, c'est ça, c'est pas juste... C'est pas, hey, si je me fais mal, je me ferai mal. C'est que si je suis infecté, je peux m'infecter plein.
Exactement. Alors là, le discours de droite qui consiste à dire « Chaque famille, occupez-vous de vous-même, puis tout va bien aller. Ben, si ta famille va à l'école avec quelqu'un qui est malade, ça va pas bien aller. » Dernier élément peut-être dans la réflexion pour comprendre tout ce qui se passe, c'est les chiffres sur la mortalité et la surmortalité. Là, la mortalité de la COVID est importante, mais est pas si c'est pas une guerre là. On a dit que c'est la guerre là en termes de moyens pris pour lutter, mais c'est juste 25% plus de morts que d'habitude. Donc,
fait que si tu as 100 morts d'habitude sur une période donnée avec la COVID, t'en as 125.
Attends, je vais te donner le chiffre bien précis pour pas dire de niaiserie, puis après me mordre les doigts.
Ben oui, dis pas de niaiserie.
Parce que là, j'ai tellement pris de notes que là, je retrouve plus mon chiffre, mais je l'ai, là, ça sera pas long. Voilà. La COVID, c'est 20 à 25 % plus de morts. Au Québec, 1 600 morts par semaine, OK? Sans la COVID, 1 600 morts par semaine. Avec la COVID, 2 100 morts par semaine. Une différence de 400. Puis 95 % des personnes sont âgées. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais qui le diront jamais à la radio, qui le diront jamais nulle part. Ben, on va pas arrêter l'économie pour ça. On va pas arrêter le monde de tourner pour ça. C'est 400 morts de plus. Et si tu fais un bilan de tous les impacts négatifs que ça peut avoir du point de vue économique, chômage, etc., il y a combien de millions d'Américains qui ont perdu leur travail? Je pense qu'on est autour de 30 millions de faillites, etc. Ben, c'est peut-être, ils le diront pas comme ça. Mais c'est peut-être la base de leur
argument. Mais c'est ce que ça veut dire.
C'est la base de leur argument.
Mais tu vois, écoute, ça, moi, je pense que les économistes puis les gens qui font des études là, vont passer des années à essayer de voir quel modèle a fonctionné. Parce que oui, tu sauves des vies, etc., mais est-ce que t'as eu des hausses de suicide, des hausses de dépression? Ça va être analysé comme on analyse les effets des récessions.
Oui.
Mais il ne faut pas oublier une affaire, Luc, quand on parle de mortalité et de surmortalité. La game, c'est encore et toujours la même. Tu ne veux pas que tout le monde soit malade en même temps et que les hôpitaux soient surchargés.
C'est ça.
Puis que tu sois chez vous, tu fais un infarctus, puis sais-tu quoi? On ne pourra pas te soigner.
Oui, c'est ça.
Il ne faut pas perdre ça de vue non plus.
Effectivement, on ne pourra pas te soigner. Puis aussi, il y a cette question-là qui est résiduelle, qu'on n'a toujours pas réglée. Puis comme tu le dis, ça va être réglé dans les prochaines années, les prochains mois. C'est si on n'avait pas confiné, est-ce qu'on serait à 400 morts de plus par semaine ou on serait à 2000 morts de plus par semaine? Et là, la question ne se pose plus.
Ben c'est ça. Puis on appelle ça le paradoxe de la prévention dans les pays où ça a fonctionné. C'est-à-dire, tu as fait de la prévention... Il t'a sauvé des vies, fait que le monde se dit pourquoi on a fait ça? Un peu sur le même modèle que, écoute, ça fait 15 ans que je paye de l'assurance auto puis j'ai jamais eu d'accident.
Ouais, c'est ça.
Je paye de l'assurance auto?
Mais sauf qu'il y a un maringouin dans la pièce, tu sais. C'est pas un éléphant dans la pièce, c'est un maringouin, puis c'est la Suède, le maringouin. C'est que, eux, ils ont rien fait, puis finalement, ils n'ont pas plus de morts. Donc, notre prévention nous a servi à rien. Alors, ce maringouin-là, va falloir l'analyser en maudit.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a des facteurs géographiques aussi, puis des flux de voyage, qui allait voyager où,
absolument,
à quelle période, etc. Aussi, là, oublie pas l'autre affaire. Tu sais, tu me disais que les Noirs américains étaient surreprésentés, les Latinos. Oui, il y a une question de quel job tu fais, quelle possibilité de distanciation sociale as-tu. Mais tu sais, les Noirs américains ont des conditions médicales qui sont pires que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Fait que oui, mm-hmm, t'as plus d'obésité, oui, t'as plus de diabète, oui, t'as plus d'hypertension, autant de facteurs qui te rendent plus vulnérable par ailleurs.
Totalement. Et quand le COVID rentre là-dedans, ben, il rentre en masse, comme quand il rentre dans les CHSLD.
Et en Suède, pays riche, t'as moins de gens qui ont de ces conditions-là, je pense.
Puis ils sont meilleurs que nous. Les as-tu vus?
Hey, je le sais. Tu tripes toujours sur la Suède, toi.
Mais regarde-nous puis regarde-les. C'est pas compliqué à comprendre.
OK, ce sera pour une prochaine chronique. 17h24.
Salut, bye.
Merci, Luc. 17h24, Pierre-Yves Maxwin s'en vient.